Mais Guillaume, mais tu glandes,
non,
là.
Je bosse pas aujourd'hui, c'est comme ça.
Ah d'accord, on a reçu une syndicaliste hier, alors monsieur est en grève.
Oui, parfaitement, ça. Parce que j'ai des revendications, figure-toi.
Ben manquait plus que ça. Hein.
Écoute ma chronique d'hier sur la croissance verte.
Et ça tombe bien, qui est partenaire du One Planet Summit? La BNP. C'est quand même, la vie, c'est quand même bien foutu,
et
des
c'est,
fois.
C'est sévère, la BNP.
Et la BNP, c'est vert. Me niquez pas ma blague d'après, s'il vous plaît, Alex.
Et voilà, voilà, voilà. Je voudrais qu'Alex arrête de me plomber mes blagues.
Oh, ça va, il l'a pas fait exprès.
Oui, il l'a fait quand même. T'aimerais, toi, quand tu poses une question à l'invité, que quelqu'un y souffle la réponse?
Ah, ça non.
Voilà.
C'est pour ça que je mets moi-même la réponse dans la question.
Ah oui, ça, c'est futé, par contre.
Bah oui.
Oui, en tout cas, la prochaine fois qu'Alex dit Bretagne, je le coupe, je lui dis ivre virgule. Bam! Moi aussi, je connais ses chutes. Ça va.
D'accord. La loi du talion de la blagounette, quoi. Bon, alors sinon, autre chose.
Sinon, oui, on a reçu beaucoup de commentaires sur ton orgasme ferroviaire.
Ah merde.
Fais-moi le coup du TGV.
Oh, toi, tu vas voir le paysage défiler, toi.
J'entre en gare. Oh, Robert.
Voilà.
Alors ça, c'était une idée d'Alex.
La vie sexuelle des ménards, ouais. Ça a angoissé beaucoup de gens.
Oui, mais ça réjouit les amateurs de films d'horreur. Tu sais qu'il a prévu un deuxième épisode aujourd'hui.
Non.
Ah si, ce sera à base de crèche.
Attends, petit Jésus qu'on met dedans, j'imagine, évidemment, prévisible.
Oui, t'anticipes pas sa vanne alors.
Non, non, tu penses bien, personne ferait un coup comme ça dans l'émission.
Ça, jamais, personne. Personne, jamais. Jamais, personne.
Jamais.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'ambiance start-up. Et voici la crème de la blague, prête à maculer le visage de l'information. Les territoires ruraux se sentent laissés de côté, le gouvernement s'installe donc à Cahors pendant 2 jours. Vont-ils manger des pâtes, porter des gros pulls, remonter de la cave pour se sentir plus proche des gens qui y vivent?
Eh oui, et ça c'est un événement, mais vous découvrez que le réel nous rattrape parfois.
Des anciens cadres de Facebook commencent à faire part de leur remords. Auraient-ils créé un monstre qui déchire le tissu social, répand des fake news et pourrait même aller jusqu'à briser des familles?
Stan, mamie dit qu'elle t'a poqué et que tu ne lui as pas rendu son poc.
Papa, je t'ai dit que j'avais pas
envie. Stan, poque ta grand-mère.
L'Arabie Saoudite ouvre à nouveau ses salles de cinéma après 35 ans d'interdiction.
Je te dis que le cinéma, c'est un métier de pute.
C'est Dutronc qui le dit, c'est l'entourloupe. Lui, il fait un putain de métier, c'est différent, c'est faire rire les gens. Alex Vizorek.
Effectivement, bonjour Charline Vanhoudacker. Et aujourd'hui, autour de la table, belle équipe, l'équipe type à 17h20. Celui que l'intelligentsia considère comme français quand il parle de jazz et arménien quand il fait de la télé-réalité. C'est vous, André Manoukian, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Un super groupe qui s'appelle Forever Pavo.
Très bien. Oui, ça donne envie, ça donne envie. 17h30, c'est le plus grand directeur de casting de Radio France. Dans ses chroniques, il a épuisé en moyenne 3 comédiens par jour. Et ils sont tellement talentueux que certains croient encore que ce sont des vrais. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour à tous, bonjour Charline. Je me suis intéressé aux réformes de l'éducation nationale aujourd'hui. Et j'ai demandé donc aux Français s'ils avaient des idées.
Il faut supprimer les bras cassés.
Voilà, supprimer le ministre a priori du coup.
Vaste programme, voilà. Comme dirait l'autre. Et à 17h40, si j'étais son agent, je lui proposerai le remake de Nous ne vieillirons pas ensemble, parce que cela me rappelle la relation que nous entretenons maintenant depuis 3 ans et demi. C'est vous, Clara Dupont-Monod, bonjour.
Bonsoir, Alex.
De quoi on va parler?
Des petites phrases qui ont fait la grande histoire.
Très bien.
Et je me tourne vers celui qui va disrupter avec nous, car il est disruptif. Vous débutez comme doublure de figurant à la Comédie Française, ai-je lu. Et de fil en aiguille, vous devenez responsable du casting pour Jacques Doyon, auprès duquel vous travaillez durant 10 ans. Vous avez découvert Juliette Binoche, Béatrice Dalle, Emmanuel Seignier, Richard Anconina ou Sandrine Bonner, entre autres. Vous quittez le casting ensuite pour devenir agent dans la plus grande agence d'Europe qui s'appelle Art Media. Et 22 ans plus tard, vous poussez encore d'un cran le cursus pour devenir producteur. Dans la foulée, vous créez le festival du film francophone d'Angoulême. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Dominique Besnéa.
Bienvenue.
France Inter. Charline Vanhoudacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Dominique Besnéa.
Oui, on est sous, hein, c'est l'apéro.
Non, c'est parce que...
Merci de m'avoir invité, j'adore venir ici.
Merci. Nous, alors,
je
nous,
vous ai connu débutant,
c'est vrai.
Ça fait plaisir.
Il faut signaler l'auditeur que lors de notre début sur cette antenne avec Alex Vizorek, une émission qui s'appelait 75 minutes l'été, Dominique Besnéa avait gentiment accepté de venir dans l'émission de 2 inconnus.
Non, mais j'avais super aimé. En plus, j'aime beaucoup André aussi. Mais c'est pas de la lèche. C'est vraiment sérieux.
On est dans de bonnes conditions pour cette émission.
Très bien. On aime bien 10% aussi. Hein, vraiment, et ça, on le dit même quand vous n'êtes pas là.
Alors, après ces amabilités...
Mais non, parce qu'on va parler de 10%.
Bien sûr, tout à fait. 10%, les dessous d'une série sur le cinéma. C'est un livre, aujourd'hui, paru aux éditions de La Martinière. Alex Vizorek, vous vous êtes penché sur l'ouvrage.
Mais oui, c'est la mise en abîme de la mise en abîme. Donc, c'est assez drôle parce que, bah évidemment, que nous, du métier, on est bien aimé voir 10% parce qu'on en voyait le revers. Mais le public français a aimé voir l'intérieur. Et ici, le public français va aimer voir l'intérieur de l'intérieur.
Oui. C'est le making-of.
Mais oui, c'est le making-of d'une série qui, pour finir, est déjà un making-of du cinéma.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi il fallait ajouter ça en plus? Est-ce que vous avez
C'est Guillaume Évin, qui est quand même responsable du livre. On cite jamais les gens qui travaillent, en fin de compte.
Non,
c'est quand même lui qui a fait tout ça, qui nous a suivis, qui est resté pendant le temps du tournage. Et moi, avec lui, j'avais fait un bouquin sur Harcourt, un très beau bouquin sur les photos. Et je l'aime beaucoup. C'est un peu vous pourriez le faire venir parce qu'il est un peu allumé. Et voilà. Et donc, je suis ravi. Alors, pourquoi on l'a fait? On fait du... Écoutez, franchement, quand on voit Star Wars, le merchandising, on peut en faire un peu, nous, quand même. On a un livre, pour le moment. On n'a pas encore les photos.
Les goodies.
On n'a pas encore Barbie, la Barbie de comment il s'appelle, d'Andrea, de Camille Cotin ou de Nicolas Maury.
Clara, vous vouliez poser
une question. Oui, parce que sur le papier, c'était quand même hautement improbable, le succès de cette série. Parce que si je me mets à la place d'un diffuseur, je vois écrit sur le papier, on va faire une série sur une agence d'agents de stars, c'est hautement improbable que ça plaise. On a le réflexe de dire mais c'est une niche, ça va pas toucher les Français.
Et
justement, comment expliquez-vous du coup la prouesse de cette série?
On a mis 7 ans pour le faire. On avait un espoir et puis c'est comme dans les gouvernements, ça change souvent dans l'audiovisuel. Donc la personne que vous avez dit oui partait, la nouvelle personne qui avait des responsabilités de fiction disait on a eu beaucoup de mal. Et en même temps, ça s'est fait, voilà.
Et oui, mais comment vous expliquez le succès? C'est parce que les gens voient un peu le revers de...
Parce que les gens s'identifient aux gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent dans les agences, ils n'ont pas les salaires, ils voient défiler des salaires de stars, et eux, ils sont payés normalement. Et donc, tout ça fait que les gens, ils rêvent, ils ont... Ouais, c'est comme... Donc, les gens sont touchés, il fallait absolument trouver le lien avec le public. Et il fallait, et ce qui est incroyable, c'est que moi, je me promène beaucoup en province, mais c'est dans toutes les villes de province qu'on va parler tout à l'heure, qui sont un peu oubliées. On me parle de 10%. Il n'y a pas une personne par jour qui ne me parle pas de 10%.
Et l'écriture aussi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on diffuse, nous, dans cette émission, pas mal d'extraits. Et ça veut dire que l'écriture nous touche puisque nous n'avons pas l'image.
Il y a un truc peut-être qui était compliqué et angoissant pour vous. C'est-à-dire que 10%, le casting est hyper bon. Alors déjà, les vedettes qui participent, mais surtout, vous avez fait découvrir Camille Cotin, elle a monté énormément, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel, Fanny Sidney. C'est des gens qui, aujourd'hui, sont un cran au-dessus grâce à la série. Alors, donc, c'était pas évident de faire le casting pour
Ils sont tellement formidables qu'ils sont demandés par tout le monde et que là, on se fait chier on se fait chier pour faire le plan de travail parce que l'un joue au Tête de la Ville. Alors, franchement, par moments, ils m'énervent un peu. C'est récurrent.
On les ramasse dans la rue et puis ensuite,
voilà, on les ramène dans la rue.
On fait des stars,
Thibaut
de Montalembert,
qui est un ami que je connais depuis qu'il a 18 ans. L'année dernière, je me suis énervé. J'ai appris qu'il allait tous les soirs au théâtre. Donc, ça peut dire qu'il est fatigué. Et je le connais depuis qu'il a 18 ans. Et j'ai connu chez Chéreau. C'est un acteur que j'adore. Et c'est vraiment moi qui l'ai imposé. Et aussi parce qu'il a beaucoup de talent. Attention, c'est pas un cadeau. Alors, je peux dire que je lui ai fait la gueule.
Il faut pouvoir tenir ses oreilles, c'est sûr. En tout cas, nous, on leur demande de rester, hein, parce qu'on aime beaucoup la série.
Ah bah oui,
c'est bien.
Oui,
il reste,
bah oui. Et puis les interviews.
Et les guests qui acceptent aussi d'être caricaturés, de se fichent de leur propre figure. Ça aussi, c'est
ça. On peut dire que sur le moment, je suis tout à fait d'accord. Puis après, quand ils voient le texte, ils chantent. Non, sauf, moi, je veux dire, Isabelle Adjani, qu'on dit par moments un peu compliqués, elle a été parfaite. Elle a été parfaite. Donc, il y en a quand même, je ne dirais pas ceux qui arrivent, parce qu'on attend qu'ils aient signé.
Prenez-en de la graine. 10% les dessous d'une série sur le cinéma, paru aux éditions de La Martinière. Et puis tout à l'heure, on touchera un mot aussi de votre documentaire, Dominique Besnéard, qui s'appelle « Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur les speakerines ». Eh oui, qui sera diffusé le 25 décembre.
Moi,
on adore, évidemment. Quelle madeleine.
Passionné de cougar, qu'est-ce que vous voulez?
Ce sera le soir de Noël à 20h50 sur France 2. Vous êtes sur France Inter pour l'instant, avant qu'on ait fusionné avec France 2. Vous êtes toujours sur France Inter. Dominique Besnéard est avec nous.
Mmh.
Sam and Dave sur France Inter, par Jupiter, en compagnie de Dominique Besnéard. Et j'ai commis une erreur, ce n'est pas sur France 2, mais sur France 5, la chaîne culturelle de France Télévisions. Le 25 décembre, votre documentaire Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur les speakerins. Et d'ailleurs, vous serez l'invité de l'Instant M ce jour-là, le 25 décembre, avec Dorothée Barba pour
très
parler.
Très tôt, hein.
Oh, 9h!
Mais si vous vous rendez compte, le 25, c'est le lendemain du 24.
Faites pas trop la fête, hein.
Ah ouais!
Monsieur, justement, on se réveille plus tôt parce qu'on a du mal à digérer.
Ouais, ouais,
oui, voilà. Vous inquiétez pas. Autour de Dominique Besnéard.
Eh bien, tous les gens qu'on prépare à France Télévisions, bon, André Manoukian, il y est déjà. Guillaume Meurice, ça va falloir relooker grave. Et Clara Dupont-Mono, évidemment. Magnifique.
Un petit peu d'informations. Allez.
C'est chiant du matin au soir d'être ministre.
Les critiques que je formule, c'est des critiques qui peuvent l'aider.
Je suis ravi d'être informé, mais tout va bien.
Le journal. De presque 17h17.
Je pense qu'il peut se la faire.
Oui, et là je pense que c'est une très mauvaise idée.
Et on commence par les titres. C'était Jean-Paul Sartre, il peut se la
sondage,
faire.
Sondage. Le regain de popularité d'Emmanuel Macron se confirme après les hommages nationaux. Il continue de grimper dans les sondages.
Bah oui, il manque plus que Marc Lévy et Jean-Jacques Goldman décèdent et Macron finira personnalité préférée des Français.
Laurent Wauquiez fait la une du Parisien aujourd'hui en France et il déclare « Je ne suis pas là pour plaire ».
Ah bah ça, enfin une promesse qu'il va pouvoir tenir.
Parce qu'il y aura des brèves.
Eh ben oui, l'épisode 2 des brèves.
L'épisode 2 des brèves.
Ben oui, et j'ai raccourci la phrase. L'épisode 2 de La vie sexuelle des Ménards.
Ah,
est très attendu.
Allez.
Évidemment, on commence par la droite.
Hier, Jean-François Copé a proposé de prendre la tête du Conseil national des Républicains.
Les ennuis commencent pour Laurent Wauquiez.
Hier, Patrick Bouisson était l'invité d'Éric Brunet sur RMC.
Oui, et ça c'est une émission à utiliser pour torturer les militants de gauche dans les goulags.
Et puis le soir même, le même Patrick Bouisson était chez David Pujadas sur LCI.
Grosse journée, et mon patoche, il nous a expliqué ce que devrait faire Laurent Wauquiez.
L'équation de Wauquiez, c'est de pouvoir finalement être en capacité de faire l'addition entre la France de la manif pour tous, la France conservatrice, et la France de Jeunet qu'on a vu samedi. S'il y parvient, alors la perspective du pouvoir s'ouvrira à nouveau pour la droite.
La France de la manif pour tous et la France de Johnny ensemble. Et c'est pas gagné parce que la France de Johnny, elle lui reproche pas d'avoir eu, lui, un papa, trois mamans et deux enfants adoptés.
Justement, ce matin, le Conseil de Paris s'est dit favorable à l'idée de renommer un lieu en hommage à Johnny Hallyday. Le Zénith et le Stade de France ont été évoqués.
Oui, pas Bercy, hein, évidemment, par rapport au fisc.
International présent. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson tente de rouvrir le dialogue entre son président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Il aurait même dit aux deux hommes, parlons même de la météo si vous voulez.
Ça c'est pas malin.
Et c'est pas malin, parce qu'après la Corée du Nord, s'il y a bien un sujet qui énerve Donald Trump, c'est le climat. Donc non.
En science, la nuit dernière, on devrait assister. À la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année.
Oui, ils sont forts ces Américains. Ils ont mis le paquet pour la promo de Star Wars.
Allez, c'est l'heure de la suite des aventures du couple Ménard.
On les attendait, mais oui, les affiches provocantes de Robert et Emmanuel Ménard, qui ont déclaré tous les deux, c'est de l'humour, Harakiri et Charlie. Et donc maintenant qu'on sait qu'ils aiment ça, et ben on a le droit d'en faire sur eux. On a retracé la vie sexuelle des Ménard. Voici le deuxième épisode de cette série qui plaît à tout le monde déjà. Premier baisier.
Premier baisier, Robert.
Manuel, enlacé et...
Premier amour, pas glamour.
Du couple Thénardier.
Aujourd'hui, la thématique de la nativité.
Robert ? Robert ?
Oui, Emmanuel.
Robert, fais-moi le petit Jésus.
Mais pourquoi ?
Je fais la crèche.
Moi, j'adore les crèches.
Oh, je le vois, tu sues comme le bœuf et tu es monté comme l'âne.
Oui, j'en peux plus, allonge-toi dans la paille.
Oh, j'ai l'impression d'être Marie et toi le Saint-Esprit.
Oh, l'idée que Joseph me regarde, ça me rend dingue.
Il arrive, il arrive, il arrive. Il est dingue.
Vivement que les rois mages débarquent en plein gangbang.
Oh, c'est bien la première fois que tu seras content de voir arriver des immigrés. Pardon, Mamie. Allez.
Voilà.
Sans transition, parce que de toute façon, il n'y aurait pas eu de bonne transition.
Non, il
n'y
a pas de
bonne
ou de mauvaise transition sport. Le cycliste Christopher Froome a été contrôlé positif lors du Tour d'Espagne en 2017.
Et pour sa défense, il a expliqué qu'il prenait un médicament pour soigner l'asthme.
Oui, alors ça, depuis la phobie administrative, on n'avait pas entendu une excuse plus bidon. Et l'ironie, c'est qu'avec cette ligne de défense, on peut dire décidément que Christopher Froome ne manque pas d'air.
C'est brillant.
Oui, c'est incroyable.
C'est brillant. C'est peut-être une brève.
Allez, une seule. Oui, par rapport au...
Vous choisissez.
Je choisis la meilleure. Sur un vol de la compagnie Swissair, une passagère très agressive contraint l'avion à atterrir parce qu'il n'y avait plus de champagne. Et ben voilà, Juliette Arnaud, vous voulez prendre un petit week-end de repos, c'est fait.
Vous êtes sur France Inter et Rire et Chanson en compagnie de Dominique Besnéard.
Et malgré ça, on est premier des podcasts. Hein. C'est ça qui est incroyable.
C'est fou. Premier sujet avec vous, Dominique Besnéard. Donc, le gouvernement s'installe 2 jours à Cahors pour travailler sur les territoires ruraux et les villes moyennes. Les photos qui nous sont remontées jusqu'à présent nous montrent Édouard Philippe dans un pub buvant de la bière au goulot. À Cahors.
Oh, le punk, celui-là.
Il y a du vin à Cahors, il n'y a pas de bière.
Ah ouais, écoutez, voilà, la bière, ça fait Chirac, ça fait cool, ça fait proche des gens.
Et après, bon, bah, alors qu'est-ce que je dis?
Ce qui vous arrange.
Parlez de vos problèmes, vous avez des problèmes.
Oui, oh, bah, c'est pas ça qui va vous remercier.
Eh bah, alors allez-y, la vie chère, la sécurité de l'emploi.
Ma femme.
Oui, votre femme, à la rigueur. Écoutez, soyez simple, je ne peux pas mieux vous dire. Et humain. Oui. Et laissez parler l'autre le moins possible.
Messieurs, s'il vous plaît.
Oui, nous y allons. Fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, ouvrier moi-même.
Poiret, c'est Rodin, la gueule de l'autre. Si mes souvenirs sont bons, c'est Pierre Tchernia.
Le metteur en scène, oui.
Voilà, exactement. Voilà, donc le gouvernement s'installe à Cahors pour annoncer des mesures en faveur des territoires qui se sentent, comment dire, délaissés. Donc il y a une forme de logique, effectivement. La question qu'on se posait en voyant ce sujet, Dominique Besnéard, c'est le rapport qu'entretient le politique avec le réel. Les politiques se mettent en scène, et là on voit encore Édouard Philippe dans un pub buvant de la bière, etc., genre proche des gens. Mais est-ce que ces mises en scène, elles trahissent le fait qu'il soit mal à l'aise avec le réel? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez aussi?
En plus, je pense que Édouard Philippe, c'est pas quand même le moins décalé, parce que il est au Havre, il est près de... Non, moi, si vous voulez, je connais bien la province, j'ai un festival à Angoulême, j'étais peu de temps dans la Creuse à Bourganeuf, et c'est vrai que je suis très inquiet, par exemple, à Bourganeuf, de voir une jolie ville où la rue principale, les commerces sont fermés. Et on va à 300 mètres, il y a une horreur de môle, de où il y a toutes les plumes, les marques qu'on voit dans toutes les périphéries. Et je me dis, mais c'est quand même les maires qui sont responsables. Ils permettent, ils ont tous des impôts locaux et tout. Et moi, je trouve ça très grave.
Les maires et les préfets.
Trouve ça très grave. Et moi, j'ai appris qu'à Arras, ils avaient interdit, ils faisaient payer tellement cher les zones périphériques, qu'ils ont recapitalisé les rues principales. Et moi, ça me fout. Et des hôtels entiers. Ils ne trouvent pas à vendre en plus. Et ça, c'est pas. Alors, Bourganeuf, c'est dans la Creuse, mais moi, je vais à Angoulême puisque j'ai mon festival. Et là, je me bats, moi, pour dire pas de cinéma à l'extérieur. Si un jour, on me demande d'aller en périphérie alors qu'il y a des multiples, je n'irai pas. Je trouve que le cinéma, c'est au cœur de la ville. Il faut retrouver les cœurs des villes. Et par exemple, puisque j'étais à Angoulême hier, et que, par exemple, il y a ligne TGV Paris-Bordeaux. À Angoulême, depuis qu'il y a la TGV Paris-Bordeaux, où on met 2 heures, il y a de moins en moins de trains pour aller à Angoulême. On est chez les fous. Je veux dire, on fait des choses, ça coûte de l'argent. Et Angoulême, c'est à côté de Cognac. Je ne sais pas, c'est une ville... Donc, je ne vais pas donner des conseils à la SNCF, mais il y a un problème quand même, là. Il y a un problème.
Et
moi, j'ai l'impression que des fois, c'est l'ENA, c'est des énards qui sont là. Je pense que c'est pire que les politiques, c'est leurs conseillers. Les conseillers sont dramatiques, ils sortent de l'ENA, ils savent même pas ce que c'est que le territoire. Et moi, en plus, c'est un sujet qui me touche. Oui. Moi, je suis vraiment quelqu'un de la France profonde, et ça me touche de voir des trucs qui valent plus rien. Moi, mes parents étaient à Vire, on avait une maison qui était bien. On la vend pour rien, alors qu'elle est en pierre de taille, parce que les villes, le cœur des villes, c'est terminé.
Comment on reste de la France profonde? Parce que quand vous dites ça, peut-être qu'il y a des gens qui sourient en disant, bah oui, mais lui, c'est le festival de Cannes.
C'est le festival d'Angoulême.
Oui, non, mais Dominique Besnéard, vous êtes quand même dans le.
Non, mais moi, je suis dans la réalité. Beaucoup plus dans la réalité que les hommes politiques. Parce que moi, je prends le métro. Je prends le métro. Moi, le luxe me fait. Justement, en étant agent, moi, j'ai jamais été captivé par le luxe. Moi, je préfère avoir une vie avec des gens que j'aime que de me dire d'avoir des montres, d'avoir des appartements et tout ça. Et les politiques, je pense que dès l'instant où on vient les chercher en voiture, c'est vrai que c'est chiant de prendre le métro de temps en temps. Ça, c'est à cause d'Anne Hidalgo. Parce que comme j'aime bien, je suis tout ce qu'elle me dit. Mais c'est vrai que de venir être cherché. Et quand ils ont plus de mandat, alors là, ils font des dépressions.
Effectivement. Il y a d'ailleurs une phrase, j'ai oublié c'est l'auteur de cette phrase, un politique, qui dit est-ce que vous savez, vous, quand vous n'êtes plus ministre, c'est lorsque vous vous asseyez à l'arrière d'une voiture et qu'elle ne démarre pas toute seule. Dominique Besnéard est avec nous et on a bien entendu que ce sujet vous tenait à cœur. Votre point de vue intéressant sur ce sujet. En matière de storytelling politique, je voulais juste vous dire que demain, on retrouve Thomas Bideguin et le grand retour de Thomas VDB aussi. Ça sera demain. En attendant, André Manoukian est avec nous.
Et oui, et nous, on va voyager, on va retourner dans les années 70. Qu'est-ce que c'était génial. Les 70s psychédéliques. On découvrait la MAE, la musique assistée par l'électricité. On expérimentait. On branchait les instruments sur des pédales, des fuzz qui reproduisaient la saturation d'un ampli et donnaient à votre mandoline la puissance d'un réacteur supersonique. Des wah-wah qui vous transformaient un riff de basse en coassement de crapaud géant. Même la trompette de Miles Davis y passait. Écoutez. Waouh, c'est pas bon ça, Clara Dupont-Mono? C'est meilleur que du Jean-Jacques Goldman quand même, non?
Ah non, je suis pas sûr, non.
Bon, les Pink Floyd, eux, faisaient tourner des micros autour des amplis avant qu'on invente la cabine Leslie, dans laquelle le haut-parleur des aigus, une sorte de trompette, est monté sur un moteur qui fait tourner très vite et ça donne une sensation de vibrato au son plein de l'orgue. Ça lui rajoutait une touche d'expressivité, un peu comme si on faisait sortir un choral de Bach de la glotte d'une diva géante. Vous entendez ce son, on joue avec le ralenti et tout ça, c'était génial. Voilà, ces effets vont inspirer des musiciens savants qui vont se mettre à la pop. Le baroque revient avec des costumes glamour, les jabots, les pattes d'œuf, les rouflaquettes qui descendent jusqu'aux burnes, les ongles qui poussent, les doigts qui se couvrent de bagouses et les solos vont durer des heures sous l'emprise de substances qui vous ouvrent les portes de la perception sur des mondes tellement chouettes que beaucoup vont y rester. La pratique des champignons sacrés, les livres de Castaneda dont le voyage initiatique fut guidé par un chaman. Attention à gauche, un esprit malin. Ouh, attention plus haut, un esprit frappeur. Baissez la tête. Ouh là là, cette figure monstrueuse symbolise toutes tes peurs. Ne sois pas effrayé. Bon, d'accord, elle a la tête de ta belle-mère, mais c'est normal. Bref, l'Occident découvrait la méditation transcendantale bien avant l'Assemblée nationale qui a toujours 40 ans de retard sur la société. N'est-ce pas, Charline? La jeunesse redécouvrait l'Orient. Saint-Laurent s'en souviendra pour créer son parfum opium. Les jeunes bacheliers vont en Inde en deux chevaux. Certains vont y laisser des plumes. Jacques Séguéla a failli rester coincé dans un ashram à Katmandou. Vous vous rendez compte?
C'est dommage qu'il ne soit pas resté.
On a failli passer à côté de la force tranquille aussi. À 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Qu'en est-il aujourd'hui de ce flower power qui envahit la planète? Eh ben, il reste forever pavot. Et oui, le temps de la musique est une flèche tendue. Mais quand la course s'essouffle, la flèche retombe. Alors pour reprendre son élan, elle fait carrément un looping. Et du coup, le temps fléché du progrès redevient le temps cyclique de Bouddha. Vous m'avez compris?
Non, mais continuez, André, on aime bien vous écouter.
Forever, l'éternité. Pavot, le bulbe de la fleur psychotrope qui vous emmène vers l'extase. Dans le nom du groupe, il y a la promesse d'une pantoufle. C'est le nom du dernier disque de Forever Pavot. Il s'appelle La Pantoufle. Forever Pavot, en fait, c'est Emile Sornin pour l'état civil. Il renoue avec le genre de la spy music, la musique de films d'espions. Vous savez, les fameux génériques de James Bond ou Amicalement Vôtre, signé John Barry, ou Manic, signé Lalo Schifrin. Dans lequel une progression harmonique, voyez, la quinte montée jusqu'à la septième en passant par la sixième. Et ça, ça fait un peu flipper. Ça vous campe un suspense,
ouais.
Hein,
ah, la quinte
jusqu'à la septième.
On a hyper peur.
Bah, voilà, la quinte.
Ouais. Mais oui, mais oui.
Attention, il y a une quinte.
Mais en plus, Emile Sornin, il fait dans le concept. Son album précédent s'appelait Bon Coin Forever. L'idée, c'est qu'il allait voir tous les gars qui vendaient un instrument de musique sur le site du Bon Coin et il les enregistrait avec son instrument. Cet album s'appelle La Pantoufle. C'est un film imaginaire où les genres se percutent d'une scène à l'autre. Polar, romance, comédie, érotisme, horreur, tout y passe. Et comme il vient d'être papa, il puise ses thèmes dans les joies et terreurs de l'enfance pour mieux les réenchanter. Allez, on plonge avec Forever Pavot.
Attention, la quinte revient.
Ah, il y a une quinte.
Sur le divan, t'as regardé par la fenêtre.
C'était Forever Pavot qui chantait le beefsteak après une chronique d'André Manoukian. Merci d'aider la suite des programmes sur France Inter. On vous retrouvera ce soir, André Manoukian, dans le nouveau rendez-vous chez Laurent Goumard à partir de 22h pour votre album intitulé Apatride. Est-ce que j'ai plus ou moins bien fait un peu de speakerine ?
Très bien, la speakerine.
Mais il y a un côté Anne-Marie Pesson chez Charline. Oui. Parce que, on dit dans votre docu qu'en fait, elle préparait pas, mais qu'elle avait, était tellement sympathique. Je ne sais pas que vous préparez pas. Elle était tellement sympathique que les gens, ils aimaient la voir se planter, la voir être souriante.
Elle était un peu transgressive, Anne-Marie Pesson. Parce que jusqu'à Anne-Marie Pesson, c'était
quand même des
comment on appelle ça, des torses. Ouais. Alors, il y avait la femme fatale, c'était Jacqueline Huette. Un peu à la Hitchcock. Il y avait un peu la mémé, la France profonde, l'ex-fiancée de Mitterrand, Catherine Langer. Et puis il y avait Jacqueline Cora qui était, en fin de compte, la mère idéale. Et puis après est venue Denise Fabre.
Et Jacqueline Joubert, bien sûr.
Ah ben avant Jacqueline avant, Joubert, bien sûr, celle qui était une des premières.
Oui, vous pourrez voir tout ça dans le documentaire de Dominique Besnéard, Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui sera diffusé le 25 décembre sur France 5 à 20h50.
Montrez à vos enfants, parce que les enfants aujourd'hui ne savent plus ce que c'est. Ouais.
Mais même certains speakers, pas vous, mais ils ne savent pas qui c'est. Je tiens à dire que ça a été réalisé par un garçon formidable, voilà. Benoît Gauthier, qui est fan des cougars aussi.
Il est 17h39 à Branlette.
C'est vrai qu'on avait oublié le point.
C'est un village de la Haute-Vienne. On pense aussi aux territoires ruraux.
Les habitants s'appellent, on ne sait pas.
Eh bien, on ne sait pas. Ouais, mais en tout cas, vous avez le crachoir, vous allez le garder, Guillaume Meurice.
Oui, et ben écoutez, hier, on a sauvé le climat grâce à Macron. Ça, c'est fait. Passons à l'école aujourd'hui. Le bilan n'est pas folichon. Hein. À chaque classement, on est ridicule. Dans le reste de l'Europe, on nous appelle Ribériland. Hein. On en est là, vraiment, on en est là. On est même obligé d'importer des Belges pour tenter de relever le niveau. Bon, ça marche pas, mais il faut bien tenter des trucs. Alors, le ministre Jean-Michel Blanquer a pris une grande décision cette semaine. Des chorales dans les écoles.
Ah, ça,
bam,
c'est bien, ça, c'est bien.
Prends bien ça dans la gueule, le décrochage scolaire. Faut pas le faire chier, le ministre. Vivement qu'il soit ministre de la Santé, d'ailleurs. Hein. Les ateliers broderie pour guérir le cancer, ça va être top. Mais bon, alors pour sa défense, l'école, ça reste compliqué à réformer. D'où la question que j'ai posée aux Françaises et aux Français ce matin. Est-ce que l'école, c'était mieux avant? Eh bien, figurez-vous que oui.
Autrefois, on faisait peut-être moins de matière, mais on les faisait plus à fond. En maths, au moins, on savait les rudiments des maths.
Bon, par exemple, 8 x 9.
Hein ? Ah, c'est difficile, ça doit être 80 et quelques, non ?
Voilà, c'est les rudiments. On n'est pas une vache près non plus. C'est dans ces eaux-là, quoi. Bon, il est bon, il est pas loin, quoi. Il pourrait faire ingénieur en physique nucléaire à Tchernobyl, mais ingénieur quand même. Alors, poursuivons, car je vous le rappelle, l'école, c'était mieux avant.
Avant, c'était bien. Oui. D'abord, il n'y avait pas de filles, c'était déjà quelque chose. C'était tranquille entre garçons.
Bah, ah oui, c'était mieux sans filles.
C'était mieux, on pouvait se bagarrer tranquillement dans la cour de l'école.
Ah, les bons vieux temps des bastons entre mecs, ça nous manque, les concours de celui qui pisse le plus loin dans la cour de récré. Alors pour les nostalgiques, hein, vous pouvez écouter les grandes gueules sur RMC, c'est à peu près le même principe. Mais bon, puisque l'école c'était mieux avant, retournons aux valeurs, retournons aux questions avec ce même monsieur qui a même fait appel à un ami.
Qu'est-ce que c'est qu'un participe présent ?
Alors ça, j'en sais rien.
Moi non plus, alors là...
Oh bah merde, un participe présent.
Ah oui, le participe présent, oui, non, mais il y a des modes maintenant avec des appellations mal contrôlées.
Ah mais essayez pas de changer de sujet, hein. Je vous sens fébrile sur le participe présent.
Joker.
Voilà, Joker, J-A-U-Q-U-E-R, hein, j'imagine, pas de problème. On mettra ça sur le dos de la réforme de l'orthographe. C'est ce que fait Alex, d'ailleurs, à chaque fois qu'il écrit un texte. Et puisqu'on parle de réforme, parlons ministre de l'Éducation nationale.
Il semble qu'enfin, on a un ministre adapté à la situation, après une période absolument inimaginable, catastrophique. Les pseudos intellectuels, elle nous les a toutes faites, celle-là, vraiment toutes faites, elle a vraiment essayé de tout démolir.
Najat Vallaud-Belkacem ?
Oui, et j'ai envie de dire, plus c'est à gauche, plus c'est con. Mais voilà, je l'ai dit.
Est-ce que ça pourrait être la devise de l'éducation nationale ?
Plus c'est à gauche, plus c'est con, je crois.
Oui. Mais oui, parce que la droite, c'est le retour aux valeurs, évidemment, comme par exemple le retour de l'uniforme à l'école. Ça, c'est chouette. Alors, ça pose des questions quand même, l'uniforme. Qui choisit l'uniforme ? Parce que si c'est moi, c'est pull moche pour tout le monde. Si c'est Clara, c'est robe chère et de mauvais goût. Donc, il faut quand même se poser les questions
avec
avant.
Avec un peu de léopard.
Oui, quand je dis mauvais goût, j'avoue, c'est encore pire que ce que je pensais. Et surtout, la vraie question, est-ce que cette histoire d'uniforme, c'est pas juste pour cacher les inégalités ?
Oh non, mais alors ça veut dire quoi, ça ? Le côté positif, c'est que les enfants, ça en bas âge, ça supprime les différences qui peuvent être mal vécues par les enfants.
Ça les cache ?
Non, ça les supprime. Là, vous voyez, dire ça les cache, je refuse cette façon de voir la chose.
Parce que quand ils rentrent chez eux, les inégalités, elles sont...
Ça les cache devant leurs camarades, c'est ça qui est important.
Ah, devant leurs camarades.
Ben oui.
Mais sinon, ça les supprime pas.
Non, ça les supprime pas.
Voilà, ça les supprime pas. Sinon, ça serait une mesure de gauche. Donc, non, l'uniforme, c'est bien. Ça fait joli sur la photo de classe. Même si ça fait mal sur la photo de lutte des classes, c'est pas grave. Il faut trouver des solutions. Et j'ai peut-être trouvé qui est responsable de tout ce merdier. Ce sont les professeurs, figurez-vous. On les connaît. Enfin, eux, ils nous connaissent parce qu'au dernier sondage Médiamétrie, ils sont 128% à nous écouter. Ils vouent un culte à Nicole Ferroni. Enfin, ils font des brières avec des bras qui moulinent et des phrases beaucoup trop longues. Et les professeurs, c'est de la saloperie, hein, n'est-ce pas ?
Je déteste.
Vous détestez les professeurs ?
Oui, c'est inimaginable. Ils ont les 3 mois de vacances, ils sont jamais là. Non, mais c'est vrai.
C'est des feignants, alors.
Ce sont des fonctionnaires qui rentrent dans la sœur en disant c'est assuré jusqu'au bout. Voilà. C'est parfait pour les femmes, parce qu'elles peuvent être absentes, elles peuvent s'occuper de leurs gosses, et elles ont les mois de vacances où elles s'occupent, vous les voyez, elles étaient toutes là au moment des vacances.
Mais bien sûr, c'est un truc de bonne femme à la limite, prof, quoi, parce que voilà, ça leur laisse du temps pour torcher les mômes et faire des trucs de gonzesses, fantasmer sur André Manoukian, enfin les conneries, quoi. Mais ça résout évidemment pas notre problème, notre réforme de l'école. Allez, prenons enfin une mesure radicale. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Changer les professeurs. Vous ne pouvez pas améliorer l'éducation des enfants avec des profs qui ne connaissent rien. Oui. Ils font des fautes d'orthographe.
Les profs ?
Oui. Bah évidemment, 5 par page.
C'est vrai ?
Eh bien, old minimum.
Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? Les profs, ils sont nuls. Il faut laisser les enfants à leurs parents ou à leurs grands-parents, hein, qui souvent sont des génies, comme on vient de l'entendre, ou à des ministres maîtres enchanteurs, comme Jean-Michel Blanquer.
Guillaume Meurice, merci Guillaume, toujours sur le terrain.
Dominique Besnard demande où vous trouvez ces gens.
Dans la rue.
Dans la rue.
Figurez-vous.
Il y avait un politique là ou pas ?
Non, ça c'est que des gens de la rue.
Ah ben ouais. Non.
Il est fort en casting, hein. Là, je peux vous dire, il peut vous expliquer
casting de voix. En tout cas, en casting de voix.
Dominique Besnéard, nous allons aborder ce deuxième sujet avec vous. Deuxième sujet qui nous laisse très, très perplexe. Alors, si c'est aussi votre cas, il va pas faire long feu, ce sujet. C'est d'anciens cadres de Facebook qui commencent à confier leurs remords. Ont-ils participé à la création d'une sorte de fléau mondial ? Ils reprochent à Facebook de détruire le tissu social et de répandre des fake news à tel point que le réseau aurait pu faire perdre l'élection à Hillary Clinton. S'il y avait un film à tourner sur ce sujet, ça pourrait se passer à peu près comme ça.
Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et, pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vos savants étaient si préoccupés parce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit.
Comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir ?
Donc, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte ? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte ? Je l'appelle « Viol de la nature ».
C'est un extrait de Jurassic Park, en VF, mais c'est le rôle de Jeff Goldblum. Voilà, l'un des anciens vice-présidents de Facebook a déclaré devant des universitaires « Moi, je veux contrôler ce que font mes enfants et je ne les autorise pas à utiliser cette merde ». Fin de citation. Et on sait aussi que, d'ailleurs, Steve Jobs et Bill Gates interdisaient à leurs enfants d'utiliser des écrans. Mais le fait que des anciens cadres de Facebook disent « On a peut-être créé un monstre », nous, ça nous a laissé extrêmement perplexes. Je ne sais pas si c'est le genre d'information qui vous trouble aussi.
Non, moi, j'aime plutôt Facebook. J'aime bien Facebook quand j'apprends des choses, quand j'ai des jolies photos de Johnny. En ce moment, Johnny Hallyday est très présent sur Facebook. J'ai moi-même mis des photos lorsque je voyais dans la Creuse avec Nathalie Baye. Quand j'apprends quelque chose, mais quand c'est pour dire, voilà, il y avait une actrice que j'aimais beaucoup qui le matin disait, oh, ce matin, j'ai pas envie de me lever. Je me suis pas lavé les dents, ça, franchement, ça c'est, non. Ouais. Et puis surtout quand on dit
sacré des... Catherine Deneuve quand même.
Quand on dit des horreurs. Mais sinon, moi, je trouve que, moi, je suis pas contre Facebook. Mais par contre, faut pas être absolument du matin au soir sur Facebook.
Vous l'utilisez un peu comme moyen de com, que le... Ouais, mais dans le moment où à l'enterrement de Daniel Darieux, vous trouvez qu'il y avait trop peu de gens. C'est parti de votre Facebook. Donc
voilà. Parce que j'ai trouvé ça, du reste, ça a été beaucoup repris. Mmh. Il faut faire attention parce que Closer, qui n'est pas une littérature jolie, je m'aperçois qu'ils sont, il y a un trait sur Facebook, il prend tous mes trucs, il le met sur Facebook, parce que j'ai défendu Weinstein,
oui, attention, attention,
c'était pas la bonne idée en ce moment.
J'ai défendu...
Guy Georges, vous avez défendu. Non, non, ne confondez pas.
J'ai défendu l'acteur Kevin Spacey, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à être insulté sur Facebook, parce que je considérais que Kevin Spacey, l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas avoir dire qu'il était homosexuel. Alors après, on lui a prêté tous les trucs. Mais de l'enlever, de l'éradiquer de tous les films, c'est scandaleux. Donc je me suis permis de dire ça. Qu'est-ce que je n'ai pas pris ? Et voilà, on a le droit aussi de s'exprimer. Et pour moi, alors peut-être qu'il s'est fait draguer quelques garçons, mais je trouve ça, c'est différent avec Weinstein. Eh bien, qu'est-ce que je n'ai pas pris ?
En fait, Facebook n'est pas un lieu de débat. C'est non. Un lieu du même, oui. avec des gens qui pensent de façon identique.
Oui. Non, c'est pas vrai, il y a des gens qui commentent des publications.
Oui, mais la plupart essayent de lancer un débat sur Facebook, même sur Internet. Le débat sans méchanceté devient très compliqué.
Mais ça, c'est dans la vie aussi, hein, dans les
même
bars.
Avec vous,
oui, c'est ça.
Bah oui, il y a le visage découvert avec l'identité déjà sur
Peut-être
Internet.
L'écrit, le débat par écrit est une forme de conception de débat plus véhément. Qui est bizarre ou plus véhément.
Oui, mais à partir du moment où on pense réseau social, on pense du coup divergence, c'est normal, ça fait partie de la société. Voilà.
Nouveau café du commerce en fin de
compte. Un peu comme chez nous, grosso modo, on va pas se mentir. Hein. Sauf quand il s'agit aussi un peu de littérature.
Ah, on va élever le débat.
Avec Clara Dupont-Mono.
Oui, puisqu'on parle, pour le coup, on aime des fois aussi un peu le même. Puisque, alors l'actualité, c'est bien sûr et toujours la mort de Johnny Hallyday, Dominique Besnehard, qui a endeuillé nos cœurs, en particulier le vôtre et le mien. Alors évidemment, certains mauvais esprits s'insurgeront de ce que des funérailles nationales aient été organisées pour un homme capable de chanter.
Je cite,
mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. Donc forcément, il y a des gens qui ont coincé un peu. Or, ces esprits rabougris, Guillaume Meurice, ils ont tort. Car ce sont des petites phrases, certes kitsch, certes discutables, qui construisent une postérité. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer ce que j'appelle la phrasette. Elle est petite, mais elle est fondamentale. C'est un peu la Eva Longoria de la littérature, la phrasette, vous voyez. J'en veux pour preuve un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les petites phrases qui ont fait la grande histoire » d'Olivier Calon, que je vous passerai après, Dominique Besnehard. Ce livre va vous intéresser. La phrasette, c'est quoi ? C'est un résumé, c'est une sentence, c'est un cri du cœur qui est poussé un moment par un personnage historique et qui vaut bien souvent un grand discours. Exemple, « Que je t'aime » de Johnny Hallyday, mais aussi « Qui m'aime me suive » Philippe VI de Valois, qui est rentré quasiment dans le langage courant. « Après nous, le déluge » de la marquise de Pompadour. On les reprend, ces phrasettes comme ça, sans même savoir qui les a prononcées. Et aussi le plus trivial, « Casse-toi, pauvre con » de Nicolas Sarkozy, qu'Olivier Calon a mis dans ses phrasettes. 5 mots expéditifs, devenus mine de rien assez cultes et qui se révélèrent assez embarrassants. Je cite, « Car cette phrasette témoignait d'un manque de contrôle peu compatible avec la fonction présidentielle. » Car, en effet, la phrasette, elle, révèle. Alors, des fois, ça peut être positif. Elle peut révéler un état d'esprit conquérant. J'en veux pour preuve l'année 1836, au moment où le commandant Changarnier, au pied de la ville de Constantine, voit s'avancer les troupes algériennes, se tourne vers son régiment et lance cette phrase que j'adore, cette phrase sublime. Il dit « Soldats, ils sont 6000, vous êtes 300, la partie est donc égale ». Non mais attendez, c'est magnifique, non ? Ouais. Et de la même façon...
Et après, il les a envoyés se faire massacrer
non,
la gueule.
Non,
quand
non,
même.
Non.
C'est moins magnifique.
Non, la garde meurt et ne se rend pas du général Cambronne. C'est le même état d'esprit. Et même, quelque part, Marie-Antoinette qui entend les Parisiens gronder parce qu'ils n'ont plus de pain et qui lâchent s'ils n'ont pas de pain, hein, qu'ils mangent de la brioche. Soyons honnêtes, c'est d'une allure folle. Il n'est même pas sûr... Mais c'est vrai, il est même pas sûr qu'elle l'ait prononcé. Mais
ça n'a...
Non, ça n'a aucune importance. La phrasette crée la réputation. Alors, évidemment,
et Pierre Gattaz quand il dit allez vous faire foutre.
Évidemment, vous vous doutez bien qu'à côté de ces phrasettes panaches, sentiment que Dominique partage avec moi, il y a la phrasette honte sur toi. Ah, et là, je ne parle pas, je vais vous citer Alex Vizorek parce que vous oubliez, vous en avez plein des phrasettes honte sur toi, à commencer par, ouvrez les guillemets, je peux t'appeler Google parce que je trouve en toi tout ce que je recherche que me sort Alex Vizorek le matin au bureau, vous voyez.
C'est
la phrasette honte sur toi. Mais par exemple, mon adversaire, c'est le monde de la finance de François Hollande, est une phrasette honte sur toi qui frôle la phrasette blague, vous voyez, on n'est pas loin, la palme d'or revenant à « La mobilisation n'est pas la guerre » de Raymond Poincaré en 1914, qui prend donc vraiment les gens pour des cons, hein, parce que « à égalité avec, ouvrez les guillemets, nous avons sauvé la paix d'Édouard Daladier en
1938, ce qui le range quand même dans les phrasettes visionnaires. Et on remercie Edouard. Alors souvent, on se rend compte rétrospectivement que la phrasette portait en elle les germes d'un événement à venir, qu'elle, en fait, elle avait déjà, c'était le signal d'alerte, en fait, d'un chamboulement à venir. Dernier petit exemple, 19 novembre 1787, Louis XVI veut lancer un emprunt de 400 millions de livres, il passe en force, il ignore les protestations du Parlement, et il murmure cette phrase écrasante et monumentale, ouvrez les guillemets, c'est légal parce que je le veux. Cette formule, écrit Olivier Calon, constitua un des éléments déclencheurs de la Révolution française, ce que personne à ce moment-là ne mesure, pas plus que certaines âmes chagrines ne mesurent encore la portée de « quoi ma gueule ». Je vous redonne les références, les petites phrases qu'ont fait la grande histoire d'Olivier Calon est parue à la librairie Vuibert.
Merci Clara Dupont-Mono. On va aborder rapidement ce dernier sujet sur les salles de cinéma qui vont enfin s'ouvrir en Arabie Saoudite après 35 ans d'interdiction. C'est un secteur qui peut peser 20 milliards d'euros et on est curieux de voir parce que pour l'instant tout ce qu'on connaît du film saoudien, c'est plutôt ça.
Et elle, c'est Amina. Elle aime lire, penser, donner son avis, se maquiller, être belle et faire le bonheur autour d'elle. Malheureusement, elle vivait dans le même pays que Mollah Omar et Ben Laden. Mais aujourd'hui, tout a changé. Elle est libre de rire, de lire, de mettre une mini-jupe, libre de...
Hop, c'est quoi ces connasseries? Non, tu crois que c'est Ben Laden, c'est fini, tu t'habilles comme une bête? Rentre à la maison, t'as tes coupes de gosses, t'es fait le corse, les manger, tout ce qui s'en souhait. Allez, sort! Ok, qu'est-ce que c'est ce bordel, Naldinas?
Le fabuleux destin d'une...
Espèce d'icounas, ma...
Toujours pas sorti en Afghanistan.
Les guignols. Est-ce que vous avez déjà pu apprécier, vous, des films saoudiens? Il paraît qu'il en est sorti 5.
Non, il y en a un formidable, c'est Vajda.
Ah, voilà, qui est cité dans pas mal d'articles.
J'en ai pas vu beaucoup, mais celui-là est merveilleux. Hein.
Et souvent, les réalisateurs, bien sûr,
Il a été nommé aux Oscars, hein.
Oui, c'est ce que j'ai lu, effectivement.
Non, c'est super.
Les Saoudiens, avec tout le blé dont ils disposent, vous pensez qu'ils peuvent créer une industrie du cinéma? Là, le cinéma, après 35 ans d'interdiction, revient, c'est quand même un événement.
Il se passe quand même quelque chose entre le permis de conduire... Ça bouge un peu là-bas. Mais moi, je trouve... Vous savez, moi, je vais souvent en Afrique et revoir, par exemple, en Côte d'Ivoire, voir des salles de cinéma ouvrir, parce qu'il y en avait très peu, et il y en avait beaucoup au Burkina Faso, parce qu'il y a le
FESPACO.
Mais là, en Côte d'Ivoire, il y a 3-4 salles de cinéma, et je trouve que c'est bien, parce qu'en Tunisie, par exemple, les salles de cinéma c'est plein tout le temps. Il y a toujours du monde aussi là. Ils y vont aussi pour s'embrasser, pour draguer un peu, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'embrasser.
Pas pouvoir le film, ce qu'on y fera, voilà. Comme disait
Mais
Berger.
Au moins, moi, à chaque fois que je vais en Tunisie et que je vais au cinéma, c'est complet. Et ça, c'est donc en Arabie Saoudite, ça peut être pas mal.
Et surtout qu'elles seront mixtes. Elles seront mixtes, les salles.
Oui.
Elles seront mixtes.
En plus, c'est à partir de janvier 2018.
Il y aura, à mon avis, il y aura un côté, un autre côté, comme à l'enterrement de Johnny.
Avec on a hâte de voir
Johnny
ça.
Et les amis de...
C'est l'heure du sketch, Dominique Besnéard. On vous propose un rôle que vous découvrez, que vous ne connaissez pas.
Bon,
et j'ai envie de vous donner le rôle de Jean-Paul Belmondo. Parce qu'il a accepté de tourner pour Fabio Antoniente, on l'a appris aujourd'hui. Alors comment ça va se passer? On propose un camping. Franck Dubosc, c'est Guillaume Meurice, vous êtes Jean-Paul Belmondo et on se rend tout de suite au Pilar.
Moi je suis Dédé.
Exactement.
Hello, bonjour, bienvenue au camping des Flots Bleus.
Toc toc badaboum. Et vous êtes qui, vous?
Patrick Chirac, comme l'autre, sauf que ma Bernadette, elle s'appelle Kimberly.
Ah, magnifique, elle est américaine?
Non, elle est du Nord-Pas-de-Calais.
Ah ça alors, vous me faites visiter? Ils sont là, les Gypsy Kings?
Non, pourquoi vous dites ça?
Bah, c'est un camp gitan ici, non?
Ah, vous êtes bizarre, vous. Vous êtes jamais venu au camping du Pilat?
Disons que j'allais plutôt au Danieli de Venise.
Ah ouais, c'est moins facile d'accès, ouais.
Disons que je sautais d'hélicoptère pour y arriver.
Dites donc, vous êtes un professionnel, vous?
Non, mon petit bonhomme, je ne suis pas un professionnel. Je suis LE professionnel.
Bon, je vous fais visiter.
Oh, pas si vite. On n'attend pas Jean-Paul?
Où est le voiturier?
Mais qui êtes-vous?
Bah, dites donc, mon petit bonhomme, t'es pas physionomiste? C'est Alain Delon.
Le guépard, plein soleil, deux hommes dans la ville, la pub Dior pour eau sauvage.
Qu'est-ce que tu fais là, mon Alain?
Vous l'êtes près de toi. On est les dernières légendes. Il n'y a plus Gabin, il n'y a plus Lino, il n'y a plus Brando, il n'y a plus Bogart, il n'y a plus Gable.
T'as connu Clark Gable, toi?
Non, mais apparemment, il aurait bien aimé me connaître.
Bon, les papilles, je vous fais visiter, là.
Bon, elle est où ma chambre?
Juste ici, là.
C'est pas une chambre, c'est une bâche.
Attends, c'est une tente, maréchal 4 places, confort maximum. Vous allez voir, je vais vous mettre bien, là.
Ouais, on n'a pas le même standing. Hein.
Et ce soir, c'est karaoké, course en sac.
Parole.
Et demain, concours de t-shirt mouillé, allez hop.
Ah, ça, par contre, ça m'intéresse. Il aime bien encore bien les PD, le bébel. Hein.
Les pépés.
Il aime bien les lapsus.
Mais c'est meilleur, elle était meilleure.
Parce que vous parlez de t-shirt mouillé.
Ce sera la piscine, alors.
La piscine, c'est pas les t-shirts mouillés. La piscine, c'est Romy. C'est Jacques Doré, c'est 1969. C'est Maurice René.
Dites donc, il connaît tous les maîtres nageurs, là, quoi.
Bon, là, va falloir te changer, mon pote.
Mais je garde le Borsalino.
Bon, vous inquiétez pas, monsieur Alain, j'ai un maillot Speedo, des claquettes à Marcel.
Un Marcelo Fulce
Non, c'est un XL.
Bonjour les garçons.
Il manquait plus que la mère de Neuve.
De Londres, de Neuve, le choc.
Oh, 1992, on sait, Catherine. T'es là pour le film d'Antegnante?
Non, je viens pour le film des frères Dardenne. Ça s'appelle Caravane. C'est l'histoire d'une chômeuse long terme expulsée qui vient finir sa vie dans un camping.
Ouais, on va bien s'emmerder. Allez, tongs là, c'est la danse des tongs. On y va, on met ses tongs.
Merci Dominique Besnéard d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle à la fois le livre 10%, les dessous d'une série sur le cinéma aux éditions La Martinière.
Pour attendre la saison 3.
Eh ouais, évidemment, bien sûr qu'on attend.
Beau cadeau de Noël.
Et le documentaire, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur les speakerines qui sera diffusé le 25 décembre sur France 5 à 20h50. Et puis on vous retrouve en chroniqueur chez Philippe Collin, bien sûr,
ouais,
le week-end sur cette
c'est
antenne.
Sympa, j'adore.
Merci Dominique Besnéard. Voici le mot de la fin au Premier ministre à la rencontre des territoires ruraux.
Et après, bon, ben alors qu'est-ce que je dis?
Ce qui vous arrange.
Parlez de vos problèmes, vous avez des problèmes.
Oui, on va, c'est pas ça qui va vous remercier.
Eh ben alors allez-y, la vie chère, la sécurité de l'emploi.
Ma femme.
Oui, votre femme, à la rigueur.